Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous êtes en compagnie de Nicolas,
Johnny
et Farouko.
Et cette semaine à Voix de Fait, de quoi on va parler? On va parler encore une fois de la situation de la station, ça devient récurrent. Parler aussi de ce qui se passe dans le monde arabe qui, ma foi, est en feu, et d'une initiative canadienne, québécoise pour un bateau pour Gaza.
Où je vais vous parler d'un dissident cubain qui est incarcéré et aussi de 300 migrants qui entraient une grève de la faim en Grèce.
Mais avant ça, on va voir les blagues comme d'habitude.
Oh oui. La blague anarchiste.
C'est quoi la différence entre les anarchistes, les soldats puis les fascistes? La différence, c'est que les anarchistes cherchent des camarades, les soldats cherchent la camarde, puis les fascistes, ben ils cherchent la marde. Série de blagues sur les mères. Une facile. C'est qui la mère préférée des catholiques? C'est bien sûr la mère Marie. C'est qui la mère préférée des nationalistes? C'est la mère patrie. C'est qui la mère préférée des conservateurs? C'est la mère au foyer. C'est qui la mère préférée des capitalistes? C'est la mère cantiliste. C'est qui la mère préférée des néolibéraux? C'est la mère ricanisation. C'est qui la mère préférée des militaires? C'est la mercenaire. Et enfin, c'est qui la mère préférée des libéraux? C'est la méritocratie.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. Man that's weak and back that's strong. You know, 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. How much owed to the company store? I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shawl and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 gold. The store boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I'll my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting troubles, my middle name. I was raised in a game written by an old mama line. No high tone woman's gonna cry my style. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I own my soul to the company store, yeah. Oh. My soul, yeah, no. Oh, my soul, oh, my soul. You load 16 tons. You load 16 tons. Well, what do you get? Nothing. Ooh. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't. A lot of men died. I got one fist of iron, another of steel. Right one knows and get you, then the left one will. Just one thing I will ask of you. Do they own your asses? Yes, they surely do. You load 16 tons, what do you get? Melody older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I am my soul
to the company store.
Ouais.
Tu nous cultives-tu un petit peu en nous disant c'était quoi?
Ouais, c'était les trotskistes. Les trotskistes.
Les quoi?
Les trotskistes de la soul, The Redskins, qui chantaient 16 Tons.
Et tout ça sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fer, on va passer à un bloc d'actualité locale, disons-le comme ça. Même s'il se passe pas grand-chose, vous savez que la nouvelle numéro 1 en ce moment, c'est la neige qui tombe.
Ah, je pensais que c'était le soleil, hein?
Le soleil.
Ouais, mais le journal.
Ah, ben oui, le journal.
Le c'est sûr journal. Qu'il en parle dans, il en parle nulle part dans l'Empire Jessica, incluant Radio Cannes, mais si tu switches à TVA, c'est le pire conflit qu'il y a à Québec présentement.
Oui, c'est sûr. Ben, actuellement, en fait, juste pour vous dire, le syndicat de la rédaction des employés du soleil est en assemblée générale aujourd'hui. Il se penchait sur les offres du. Sur les offres, mon Dieu. Les offres avec un gun, ça attend. De M. Crevier, l'éditeur général. Jessica. Et donc c'est ça, en fait, c'était pas compliqué. Vous acceptez des concessions ou ben non, on ferme.
Ouais, puis moi, je suis un peu d'avis comme les gens du soleil, justement, qui disent je pense qu'il est sérieux quand on va fermer, parce que tout ce qu'ils vont faire de plus, Jessica, si jamais, selon moi, s'ils refusent, je dis pas refusez pas puis battez-vous pas, mais c'était rat fini-là, il a juste à chiper la presse à Québec.
Ben non, c'est clair. Ceci dit, j'ai un scoop pour toi, ils ont accepté.
Ah, bon. Shit!
N'empêche, moi, je me disais, en regardant ça, toutes ces histoires-là, je me suis dit, bon, ben, coudonc, à force de négocier avec un gun, ça attend, peut-être que les journalistes vont finir par avoir un peu de compréhension pour les autres travailleurs qui négocient avec un gun, ça attend.
De toute façon, là, Pelado, il veut finir avec la loi anti-scab au Québec, là.
Ouais, oui, 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 ben c'est justement.
Il reste juste la Colombie-Britannique puis le Québec de communistes.
Ben justement, c'est ma première nouvelle, en fait. PKP qui est surpris d'être un voyou. Alors, celui qui s'occupait de se faire, qui s'offusquait de se faire traiter de voyou, là, le millionnaire, multimillionnaire libertarien Pierre-Carl Pelado vient de faire une grosse découverte. Alors, il a déclaré en commission parlementaire, je suis très surpris par ces chiffres, qui a répondu quand on lui a fait remarquer que l'entreprise québécoise représente à elle seule 54% des jours de travail perdus en raison de lockout au Québec depuis 10 ans. Donc, quand on dit que c'est Monsieur Lockout, c'est pas juste une figure d'esprit, là, c'est le champion de toute catégorie.
Oui, c'est le poids super lourd.
Ouais, c'est le poids super lourd du Lockout. En fait, Pierre-Carl y témoignait hier devant une commission parlementaire qui vise, à ta statuque, la modernisation des dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail.
Ouais, parce que là, lui, là, sa liberté de boss est brimée, OK, là?
Ben, c'est ça, justement. Il se dit lésé par les syndicats qui l'empêchent de faire tout ce qu'il veut. Alors, il aimerait ça pouvoir mettre à pied ses employés à volonté, regrouper les salles de nouvelles, etc. Et on remarque ici, justement, la rhétorique libertarienne que tu soulignes si joyeusement. En fait, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Puis lui, il veut pouvoir faire ce qu'il veut, puis là, il peut pas faire ce qu'il veut, fait qu'il est pas libre.
Donc, il va dire comme les machos, le syndicalisme, c'est comme le féminisme, c'était bon avant.
C'est dépassé, on n'en a plus besoin.
On n'a plus besoin de ça.
Mais évidemment, on se soucie peu des conséquences de cette attitude-là sur celle des autres. Là. On peut se demander, c'est cool la liberté, là, mais la liberté des employés, elle est où?
Aux poubelles de l'histoire. Poubelles.
Et ben c'est ça, là, c'est toujours les libertariens, c'est la liberté, là, c'est leur liberté, puis celle des autres, on sent.
Ouais.
Faut pas dire ça à la radio.
Non, mais de loin, comme ça paraissait moins.
Ça paraissait moins, c'est bon. Ceci dit, effectivement, il se... de certains de ses engagements, parce que, tu vois, il y a 10 ans, Pierre-Carl, quand il est arrivé à la tête des Québécois, il avait dit qu'il voulait continuer à soutenir la presse canadienne, qu'il voulait adhérer au conseil de presse, qu'il voulait maintenir l'étanchéité des différentes salles de rédaction de l'Empire, trois promesses qu'il a complètement bafouées. Et là, il fait ça avec le sourire, et on a pu voir un fin renard en commission parlementaire.
Prochaine étape politique. Il va-tu présenter au Parti libéral?
Je ne sais pas. Peut-être pas au Parti libéral, parce que imagine-toi donc que hier, il a exploité la carte nationaliste à fond la caisse, avec la subtilité d'un bulldog dans une garderie. Il s'est présenté en commission parlementaire comme un entrepreneur fièrement québécois à la tête d'une entreprise fièrement québécoise.
Oui, Québécois World.
Oui, comme tous les nationalistes le savent, c'est bien évident qu'un Québécois plurilingue, c'est moins méchant qu'un maudit anglais.
Mais oui.
Mais bon, donc c'est ça. Il faut dire par contre que malgré là sa répartie suave, il parvient pas à couvrir le boucan qui est causé là par le lock-out au Journal de Montréal. Il y a quand même beaucoup de et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Tu sais que hier en commission parlementaire, Amir Kadir a demandé à pouvoir participer à la commission, ce qui lui a été refusé unanimement par les députés libéraux et péquistes.
Ben oui, hey, comme ministre, le reste chez vous.
Ouais, non, il voulait pas se faire voler la vedette comme quand...
comme Henri à chaque Paul, fois.
Henri-Paul Rousseau s'était présenté de la Caisse de dépôt et de placement en commission parlementaire, puis Amir Kadir avait pu lui poser des questions. Alors, il voulait surtout pas que Amir puisse poser des questions à Pierre Carle, parce que peut-être que ça aurait volé la vedette à nos députés péquistes et libéraux. Mais enfin, bon, toujours est-il que...
ça les aurait forcés à travailler un peu.
Oui. Il y a un problème grave avec le Code du travail actuellement, c'est qu'il a été fait en 1977 et qu'il y a des choses qui ont changé depuis.
T'es sûr? Moi, j'ai vu une vidéo qui datait de 1994 qui m'expliquait c'était quoi Internet.
Il y a quelques petites choses qui ont changé depuis. Entre autres, aujourd'hui, comme tout le monde le dit, et de plus en plus de gens le reconnaissent, la loi anti-scam, là, elle marche pas, c'est plus facile que jamais de franchir une ligne de pitage parce qu'il y a le télétravail.
Et
c'est possible de faire un journal en dehors des bureaux du journal.
Genre en Grèce.
Ah non, mais attends, là, je me souviens plus où, là, mais il y avait comme une partie qui était faite là, une autre partie qui était faite
ouais,
là, une autre partie qui était faite
quand,
là.
C'est quand les noms de tes joueurs de l'équipe du Canadien de Montréal sont écrits en grec, c'est un peu louche.
Oui, non, c'est vrai. Il y avait eu cette faute-là, effectivement. C'est une page du Journal de Montréal, du Journal de Québec, qui avait visiblement été montée par un sous-traitant...
Lointain.
Lointain. Mais bon, toujours est-il que ils veulent modifier... cette disposition-là, évidemment, la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Alors PKP, avec l'aide, tiens-toi bien, du Conseil du patronat de l'Institut économique de Montréal, il dit, ben, ça va être donnant-donnant. Si vous renforcez la disposition anti-briseur de grève, il faudrait que vous abolissiez la formule RAND. Donc, vous avez le choix. Ou ben non, vous êtes complètement impuissant. Ou ben non, vous êtes complètement affamé, dit-il au syndicat, finalement. Donc, il faut aussi dire, là, que, là, il nous prend vraiment pour des joyeux imbéciles. Pierre Carle, il délire complètement. Il se voit comme un défenseur de la prospérité des Québécois.
Oui, c'est certain. Ben, mais de certains
alors,
d'entre
là,
eux.
Je le cite. Notre rôle comme agent économique consiste à bâtir des entreprises solides afin que nous puissions participer à l'enrichissement de nos concitoyens et non à leur appauvrissement. Alors, chacun le sait, les syndicats appauvrissent
tout
les gens, alors que les patrons les enrichissent.
Mais systématiquement. Il y a la logique implacable. Le patron m'envoie mon chèque de paye, puis le syndicat me fait une retenue.
Et voilà, c'est évident. Évidemment, on parle pas d'enrichissement culturel, là, parce que si on regarde là, les médias là, dont la propriété est à Québécois...
c'est l'Empire.
Ils s'acharnent avec une vigueur militante à rendre les gens plus cons.
Si tu veux entendre de Star Lobotomy ou ben des affaires de même, là, tu peux être certain... Là. Il y en a de la culture en hostie.
C'est ça. La seule affaire, par exemple, qu'il faudrait pas oublier avec ça, puis c'est là-dessus qu'on va conclure ce vague sujet.
Yes.
Vaste sujet, pas
oui,
vague,
plutôt.
Pardon. Vaste sujet. C'est que on n'a pas attendu Pierre Carle pour avoir une super méga concentration de la presse. Alors, les gens qui ont un peu de mémoire se souviennent peut-être de cette merveilleuse saillie de Bernard Landry qui disait faire confiance à l'éthique capitaliste en ce qui concerne la concentration de la presse. Visiblement, l'éthique capitaliste était peut-être pas où est-ce qu'il l'attendait.
Pas tout à fait.
Et donc, c'est ça, on peut dire, bon...
Mais ça existe.
PKP, là, c'est quand même quelque chose. Sauf que, ben écoute, la concentration de la presse, là, c'est les gros qui mangent les petits. Puis au bout du compte, en fait, quand même qu'on le civiliserait ou qu'on viendrait avec un statut de journaliste professionnel ou tout ce que tu voudras, en fait, il y a des causes structurelles qui rendent la situation impossible et qui font en fait qu'on se retrouve dans une situation de concentration de la presse où la liberté de presse existe seulement si t'en possèdes une, puis pour en posséder une, ben faut que t'en possèdes toutes.
C'est comme l'anneau.
C'est comme l'anneau. Mais non, mais sérieusement, c'est parce que c'est un peu comme le droit au logement. Tu vois, le problème avec le droit à l'information, c'est que l'information est une marchandise et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la relation économique fondamentale, c'est pas de vendre une information à des lecteurs, c'est de vendre des lecteurs à des annonceurs.
Donc, faut que l'information soit intéressante
pour les annonceurs.
Et
parce
voilà.
Parce que sinon, on s'en sort pas. Enfin, bon, bref. Tout ça pour vous dire que là, ça paraît pas, là. En fait, ça doit paraître quand même un peu. Mais, je suis allé chercher ça. Ma source principale, c'est un post sur Voix de fait.
Oh!
Donc, voilà. Et,
www.voixdefait avec un X et un S.blogspot.com.
Genre. Oh! Nous aussi, on est capable de faire du multiplateforme puis de la convergence médiatique.
Convergence libertaire. Ah. C'est la fin. Le début de la fin encore.
C'est le début de la fin. Et c'est ça. Puis je voulais revenir aussi sur une autre affaire, là. Celui-là, il est plus à moi, là. Mais, parce que l'autre, c'était François, en fait, qui a fait le travail de rédaction. Nous remercions notre rédacteur, François.
Salut.
Notre recherchiste et enfin bon. Donc je voulais juste revenir sur quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Moi j'ai vu ça sur Cyberpresse, mais bon évidemment comme ça se passe à Montréal, on en a pas beaucoup entendu parler dans la région. Mais c'est juste pour dire que l'actualité là se charge à l'occasion à nous rappeler pourquoi qu'on est anarchiste.
Ah oui?
Eh oui. Des fois. Puis il y avait un fait divers publié hier. C'est l'histoire de Victor Hugo Morales. Ça, c'est un musicien du métro à Montréal, un Chilien que l'État veut expulser au Chili sur le principe de double peine. C'est-à-dire que le monsieur, il a un passé délinquant, il a fait des conneries quand il était jeune, il a fait de la prison, tout. Puis il a payé, mais aujourd'hui on veut l'expulser parce que bon, écoute, c'est un immigrant
méchant
criminel,
mais il est pas milliardaire comme le frère de l'autre lui par exemple.
Non, il est pas milliardaire comme le frère de l'autre et puis c'est ça là, c'est une histoire plutôt classique et tragique de l'immigration, puis c'est ça le drame, c'est quelque chose qui revient fréquemment là, la double peine là, de dire on va punir quelqu'un puis après ça on va le mettre à la porte. Et comme c'est souvent le cas, M. Morales a fait sa vie ici mais lui il l'a fait comme vraiment pas mal. Il y a 3 enfants qui sont nés ici, puis toute sa famille est ici. Puis c'est un peu normal, parce qu'il est arrivé au Canada il y a 30 ans, à l'âge de 7 ans.
Donc, attends, à 7 ans?
Oui.
Quand est-ce qu'il y a eu sa sentence là-bas?
Ben, en fait, il n'y a jamais eu de sentence là-bas, c'est des sentences ici. C'est okay. Parce qu'il y a eu un problème à l'adolescence, c'est comme jeune adulte. Puis après ça, il a fait étirer les procédures. Puis bon, enfin, l'État dit, tu t'es mis toi-même dans la merde, t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Là, lui, il dit, ben écoute, ça fait 6 ans que je suis sobre, parce que bon, il y a des problèmes de drogue et d'alcool et tout. Il dit, ça fait 6 ans que je suis sobre, maintenant, je suis un honnête musicien du métro, je suis devenu évangéliste, j'ai changé de vie. Il y a même son ex-femme qui vient le supporter. Il y a 3 enfants de deux femmes différentes. Le premier enfant, il le voit pas vraiment parce que, bon, la séparation s'est pas faite dans les meilleurs termes. Les 2 autres, il est là souvent. Il s'occupe de sa mère aussi, qui est malade à Montréal et tout. Mais l'État veut l'expulser quand même parce que, imagine-toi donc, que la loi, c'est la loi. Et donc, c'est ça, pour moi, premièrement, il faut être complètement tordu, là, pour dire que ce gars-là, il est plus chilien que québécois, là.
Un petit peu, ouais.
c'est vraiment, à moins qu'on dise que toi, t'es espagnol, tu sais.
Ben, j'ai la double nationalité.
C'est ça, tu sais.
Fait que je peux me pousser dans la faillite espagnole quand je veux.
Mais bon, c'est ça. C'est l'absurdité et la froideur étatique là, dans toute sa splendeur. Alors, envoyez-nous vos cossins, vos bébelles, venez polluer, on va vous envoyer nos déchets, pas de problème. Mais les gens, eux autres, par exemple, ils pourront pas se promener comme ils veulent. Je te dis, là, il y a assez de... Moi, je sais pas, là, quand j'étais adolescent, là, l'histoire d'apatride, ça me touchait beaucoup, là. Puis je dois t'avouer que là-dedans, il y a assez de stock pour devenir anarchiste. En fait, si je l'étais pas déjà, là, c'est ce genre de truc qui me convaincrait, là, haut la main. Et puis, hey, moi, je pensais que j'avais pas beaucoup de choses à dire. Là. Ça m'en fait pas mal. Là. Je pense qu'on pourrait passer un peu en musique. Puis,
c'est comme tu veux.
Moi, j'ai... Ah non, regarde, je vais faire un dernier bout.
Vas-y, fort.
Puis après ça, on va passer en musique. Puis on va revenir avec les nouvelles de Janie. Puis on va finir ça avec Gaza. Donc, écoutez, on revient souvent sur la question, là, mais on n'est pas les seuls à revenir souvent sur la question. Il y a, c'est quoi, il y a la station de radio que vous êtes en train d'écouter qui fait la une du droit de parole. Ça, là, c'est hot, là. C'est, je veux dire, on est passé au téléjournal avant les fêtes, là, de Radio-Canada, mais là, on fait la une du droit de parole. Et le titre est très intéressant, en fait. C'est Coya sauvé par ses membres, et ça demande tout de suite après pour combien de temps. Et donc, c'est juste pour vous rappeler que la station de radio a été temporairement sauvée d'un naufrage financier, mais on n'est pas encore sorti du trouble. Tu vois... là, selon les chiffres là, qui sont publiés dans Droit de parole, là, on aurait ramassé 25 000 piastres avec l'aide des membres jusqu'à maintenant, depuis l'automne. C'est quand même beaucoup de sous, mais qui mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et on est vraiment en fait, c'est ça. Là, tout le monde pédale. Cette semaine, hier, il y avait des kiosques simultanés au collège François-Xavier Garneau, au cégep de Limoilou, à l'Université Laval. Et pour vous attendre à d'autres activités comme ça, là, on est rendu, imagine-toi donc, à... Bon, là, dans le journal, il dit 700 membres. Moi, je sais que c'est un petit peu moins que ça, là, mais presque 700 membres.
Ben, vu que ça a pris du temps à sortir le journal, ben, c'est ça, journal, ils vont être rendus là.
Le journal, quand vous allez l'avoir entre les mains, on va être rendu à 700. Mais bon, c'est ça. Toujours est-il que... ça s'en vient là, ça s'en est pas pire là, mais il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et on a même mis sur pied une campagne spéciale là, pour essayer de convaincre les commerces locaux et les entreprises d'économie sociale d'annoncer sur nos ondes. Fait que peut-être, tu me le diras s'il y en a, mais peut-être qu'il va y avoir de la pub à un moment donné. c'est quand même ça. Puis sinon, ben vous pouvez toujours devenir membre. Évidemment, là, on est rendu à 700, mais on veut se rendre à 1000. Écoutez, Sequoia a fêté son 25e anniversaire le 31 octobre 2009. C'est pas rien, là, c'est pas une petite affaire à Québec, là. C'est 150 personnes, des producteurs indépendants, là, comme nous autres, qui font cette station-là, la programmation. Et puis là, ça, je le savais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais que ça se base sur un sondage CROP. Il semblerait là, qu'on représente entre 8 et 9 % de l'auditoire total à Québec. À Sequoia, ce qui est quand même pas si mal. Sur un mois, là, tu sais, pas jamais à un moment précis, là, 8-9%, là, mais si t'amalgames tout, ça fait 8-9%, ce qui est quand même pas rien. Fait qu'il faudrait pas la laisser tomber, la station. Fait que c'est ça, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller sur notre site web, à devenir membre. Si vous êtes déjà membre, vous pouvez se faire un don. Hein, tu sais, on peut donner de l'argent tous les mois, si on veut. Donc, www.sequoiafm.org. Puis c'est ça. Là, on va s'en dans la musique pour vrai.
Tendez l'oreille, on parle de vous. C'est-tu le slogan de Sequoia? D'ailleurs, faut absolument qu'on prenne notre carte de membre pour soutenir la radio Sequoia, sinon on n'entendra plus parler de nous. Achetez en ligne sur sequoiafm.org ou en passant sur place au 600 Côte d'Abraham sur les heures de bureau ou par téléphone au 88 529 9026.
Derrière caméra, ta grande erreur, t'es où, protège-toi.
Ouais, on vient d'entendre le groupe punk rock montréalais La Gâchette avec leur vieille pièce sur les médias.
C'est une première nouvelle, c'est dissident Guillermo Farinas qui a été incarcéré jeudi dernier, le 27 janvier. Selon sa mère, ce dissident-là a été rendu célèbre par l'octroi du prix Sakharov 2010 pour les bienfaits de la presse du Parlement européen. Il avait déjà été arrêté mercredi dernier à Santa Clara, où il reste à 300 km à l'est de La Havane, et détenu pendant 7 heures de temps. La police l'avait arrêté avec une vingtaine d'autres militants lorsqu'il était venu apporter son soutien à une famille expulsée d'un logement qu'ils occupaient illégalement, selon la police. Selon lui, la police a justifié l'arrestation par le scandale que le groupe a provoqué dans la rue à s'opposer à l'expulsion de la famille, mais les raisons de son emprisonnement ne sont pas encore connues, puis celles de ces 10 autres décisions qui ont arrêté le 27 janvier dernier. Lui avait eu une grève de la faim en 2010 pour réclamer la libération des prisonniers politiques au lendemain de la mort du détenu de conscience Orlando Zapata Tamayo le 23 février 2010. Ce dernier a observé 85 jours de jeûne protesté contre les conditions de détention. Il avait mis fin à son action 135 jours plus tard quand le gouvernement de Raúl Castro avait entamé un dialogue inattendu avec l'Église. Là, je pense que tu parles de l'Église romaine, mais en tout cas, il a autorisé la libération de 52 et 75 opposants arrêtés en 2003. Une partie d'entre eux, 41, ont depuis été effectivement libérés. Une quarantaine ont accepté de quitter le pays et sont partis à Madrid, la capitale espagnole, tandis que 11 autres qui ont refusé d'émigrer en Espagne sont maintenus en prison. Mais le gouvernement cubain accuse Farinas, ancien militaire qui a pris distance avec le régime en 1989, de comportement antisocial et considère à l'instar des autres dissidents comme un mercenaire des États-Unis. Son emprisonnement, sa interview au lendemain de la publication par la Commission cubaine des droits de l'homme et de la réconciliation nationale de son rapport annuel qui prévoit une dégradation en 2011 de la situation des droits de l'homme à Cuba, déjà jurée très défavorable pour 2010 malgré des libérations des prisonniers politiques. Donc, c'est un dossier à suivre. Puis l'autre nouvelle, en fait, j'ai entendu parler de ça à la conférence que j'ai un militant assez connu quand même, le militant montréalais Jack Singh, qui est arrêté au G20 l'été dernier, qui est venu faire une conférence au Café Bar l'AJT hier, mardi, sur la partie globale, sur le G20, en fait. Il a parlé de 300, il y a deux semaines, il avait parlé d'un mur qui se construisait entre la Grèce et la Turquie pour contrer le passage d'immigrants illégaux. Là, ce sont 300 migrants qui ont tenu une grève de la faim à Athènes et à Thessalonique. Il y a un appel qui a été publié sur Internet, sur un blog, mais hier soir, mardi, il était accessible, puis ce matin, il ne l'est plus. Donc, je sais pas si le blog était mis hors ligne ou s'il y a eu une attaque informatique, je sais pas. J'ai sélectionné un peu quelques passages de leur déclaration. Nous sommes des immigrés et des immigrés venus de toute la Grèce. L'Occident qui paye nos pays a un niveau de vie meilleur si je le compare au nôtre et la seule espoir si on veut vivre en tant qu'être humain. La terminologie fasciste est reproduite par les médias en cas où ces derniers font référence à nous. Les propositions fascistes sont proclamées sous forme des propositions gouvernementales. Le mur à Evros, les camps flottants, l'armée européenne à la mer Égéenne, la répression brutale aux villes, les déportations massives. Nous demandons la légalisation de tous les immigrés, de toutes les immigrés, nous demandons des droits politiques et sociaux et des obligations égaux aux salariés grecs. Le 25 janvier, 300 d'entre nous commencent la grève de la faim à l'échelle nationale à Athènes, Athènes, Thessalonique. Nous mettons en danger notre vie parce qu'en tout cas, il ne s'agit pas d'une vie digne. Nous faisons le choix de mourir ici au lieu d'hériter à nos enfants de la vie que nous avons vécue. Donc, le texte complet sera sur le blog très prochainement.
C'est quand même assez extrême. On ne doit pas être dans une situation très rose pour en venir là.
De ne pas être Noël tous les jours. Es-tu autre chose?
Non.
On continue en musique?
Oui.
On va y aller avec...
On revient avec le monde arabe en feu après la musique.
Yes. Nous, on y va avec Zebda.
Here we go. Here we come. Here we go. Here we come. Come on.
la faucille ait peur du marteau et de tous ces outils qui font des cloques. Si le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'aime mieux rester éveillé, moi. J'aime mieux les fourchettes, j'aime mieux les couteaux, pas les doigts qu'on porte à la bouche. On est des hommes, on n'est pas des animaux. Comment ça, j'ai que de la bouche. J'ai peur des idées, j'ai pas peur des idiots.
Ils essaient pas de s'éviter des cloques.
Si le bonheur appartient à ceux qui ont du boulot,
j'aime mieux rester éveillé, moi.
J'aime mieux les athlètes, j'aime mieux les costauds.
Et si tout ça, pomme, ça vous paraît louche.
Ce sont des hommes, c'est pas des animaux.
Et ils ont pas, pomme, pas que de la bouche.
Tu n'as que ça,
que de la bouche.
Tu n'as que ça,
que de la bouche.
Tu n'as que ça,
que de la bouche.
Les familles et patrie, c'est que du ragot.
C'est pas que dans les mains que ça fait des cloques.
Si le malheur appartient à ceux qui sont du ghetto,
j'aime mieux rester avec moi.
J'aime mieux les bastilles, j'aime mieux les bistrots.
Parce qu'on s'y sert pas rien que de la bouche.
On y voit des hommes et pas des animaux.
Et la différence, c'est la bouche.
J'ai peur de la faucille et peur du marteau et de tous ces outils qui font des cloques. Si le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'aime mieux rester éveillé, moi. J'aime mieux les fourchettes, j'aime mieux les couteaux.
Pas les doigts pom-pom qu'on porte à la bouche.
On est des hommes, on n'est pas des animaux.
Comment ça pom-pom, j'ai que de la bouche.
Tu n'as que ça, tu n'as que ça. Tu n'as que ça, tu n'as que ça.
De la bouche.
Tu n'as que ça, tu n'as que ça. Tu n'as que ça, tu n'as que ça.
Ouais, on vient d'entendre ceux qui ont fait les motiver avec la faucille et le marteau.
Ouais. Sur les ondes de CKIA 88.3 Québec, vous écoutez toujours Voix de Fait. Et bon, en fait, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce qui se passe dans le monde arabe. Je lisais ce matin sur Cyberpresse la déclaration d'Obama. Là, il a fait une espèce d'adresse à la nation. Moi, ce que je trouve que de bien là, avec les révolutions, là, c'est que ça va tellement vite que les pouvoirs n'ont pas le temps de s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis de respecter les formes sur la souveraineté nationale, l'indépendance des États et tout. Là. Obama s'adresse aux manifestants, s'adresse... En fait, Obama a parlé à Moubarak pendant une demi-heure. Il a laissé Moubarak faire une déclaration publique. Après ça, il s'est adressé à la télévision. Puis là, il s'est adressé directement à Moubarak, aux politiques égyptiens, aux manifestants, à l'armée. Il dit, nous entendons votre voix.
C'est Dieu,
Obama. Il faut qu'il y ait une transition démocratique. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là, tu lis ça, puis tu te demandes, c'est... en tout cas, tu te demandes pas c'est qui le vrai boss, là. Quand même, non, sérieux.
Non, en fait, c'est faux. Le vrai boss, c'est pas Obama. Il est en Chine, puis il tient Obama par le portefeuille.
Oui, il y a ça. Mais enfin, bref, moi, je lisais ça, puis je me disais, mon Dieu, ça me fait penser un peu, je sais pas, c'est le même genre de relation que De Gaulle pouvait avoir avec l'Algérie ou Elisabeth II avec l'Inde à une autre époque. C'est... Enfin, bon, on voit vraiment l'impérialisme dans toute sa splendeur.
Plus ça change, plus c'est pareil.
Plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, puis c'est pareil, ben, il y a aussi toujours des anarchistes qui s'impliquent, qui essayent de voir ce qu'il y en a, essayent d'analyser les causes de la révolte. Évidemment, si on se fie juste aux grands médias là, pour comprendre ce qui se passe, on ne sera pas sorti du bois. Puis là, il y a un des militants d'anarchismo, là, José Antonio Guterres, il fait souvent des entrevues avec des amars un peu partout dans le monde là, sur les situations là, quand ça se passe. Il a fait avec Haïti, avec le Chili, tout ça. Puis là, il a déniché un anarchiste syrien, Almaz Mazen, qui est éditeur d'un blog anar en arabe, ce qui est plutôt rare, en fait. C'est un médecin syrien qui est né en 66, un ancien membre du Parti communiste syrien de l'Union des jeunesses démocratiques de Syrie. Il est aujourd'hui militant anarchiste. Et donc, c'est ça, il y a une petite entrevue qu'on a traduite, qui a été publiée d'abord en anglais sur Anarchismo, puisque bon, c'est un hispanophone qui s'adressait à un arabophone, fait qu'ils ont fait ça en anglais. Et nous, on l'a remis en français, tiens donc. Et donc, ça, Rosé, il demandait, il dit, il semble tout à coup que des vagues massives de protestations ébranlent les fondements des régimes oppressifs, des régimes là, qui sont implantés de longue date dans le monde arabe. Est-ce que il y avait des signes que ces manifestations-là pouvaient s'en venir? Ce à quoi le camarade, j'ai déjà oublié son nom, c'est ben niaiseux, Mazen, répond, il dit, c'est une des choses qui est intéressante à propos de cette vague révolutionnaire qui se répand dans le monde arabe. Elle a frappé exactement alors que presque personne s'y attendait. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une citation qui circule sur Internet que je trouve très drôle.
C'est le Facebook.
De Rosa Luxembourg.
Ah non, ok. Non. C'est l'autre affaire.
Rosa Luxembourg qui disait à propos de la révolution, la veille, on la voit pas venir, puis le lendemain, ça paraissait évident.
Ça va de soi.
Et donc, personne ne s'y attendait. Même juste quelques jours seulement avant les manifestations de masse en Égypte, le secrétaire d'État américain Hillary Clinton avait déclaré que le gouvernement égyptien était stable. Et maintenant, évidemment, il n'y a rien qui est stable dans la région.
Ben, il
a
été stable depuis 81.
Ouais, c'est ça. Les masses sont en révolte. Partout, les régimes s'attendent au pire. Aujourd'hui, imagine, au Caire, ils ont lâché des milices contre les manifestants. En fait, c'est essentiellement des gens des forces de sécurité puis de la police, mais en civil, sur des chameaux, toi, pour charger dans la foule au pas de course avec des battes.
Ça a l'air moins méchant.
Mais non, j'ai vu les images, ça a l'air méchant. Certains, mais ils ont pas réussi à reprendre la place principale du Caire, donc
puis demain ils vont avoir
une marche. Mais ils sont vraiment arrivés là, à cheval, à chameau, à dos d'âne,
oui,
pour foncer dans le tas. Là.
Le pouvoir en place a instauré des manifestations pro machin dictature puis la première image que j'ai vue de ces manifestations spontanées entre guillemets pour appuyer le pouvoir, c'était un espèce de gradé policier qui était sur les épaules de deux personnes qui chantaient, tu sais, c'est lui qui
scandalise le gars.
Ouais, t'es comme ouais, c'est vraiment une manifestation spontanée des masses populaires.
En tout cas, partout les régimes répressifs s'attendent au pire et ben il y a des choses en commun d'après Mazen à tous ces incidents-là qui sont passés inaperçus pour les régimes, les hommes d'État, même les intellectuels, ben il y a la colère qui était là, complètement cachée, réduite au silence par la répression des États, la pauvreté, le chômage qui sont en hausse partout. Évidemment, les gouvernements locaux et occidentaux pensaient que cette colère-là pourrait être maintenue sous contrôle, et on sait maintenant à quel point ils avaient tort.
Ouais, c'était dit, ils vont faire des pétitions sur Internet.
Ben, c'est ça. Et la marmite a sauté parce que, bon...
Il n'y avait plus Internet.
C'est ça. On se demandait aussi quelle est l'importance de la fuite de Ben Ali en Tunisie. Ce à quoi le camarade syrien répond. Ce n'est que la première étape de la cascade à suivre. Ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que des gens qui se révoltent peuvent défier la répression et gagner. Il est encore trop tôt pour parler de solution finale. C'est un peu trop complexe en ce moment, là, mais les gens ont appris à connaître leur réel pouvoir et ils sont encore dans les rues. Et donc, selon lui, la lutte est encore ouverte à de très nombreuses possibilités. Et donc, quant à savoir la question à 100 balles que tout le monde se pose, où est-ce que la révolte va s'étendre, c'est quoi les prochains pays qui vont être confrontés à des rébellions massives? On disait, il dit, ben, on peut dire maintenant avec confiance que le prochain, ça pourrait être n'importe lequel. Peut-être que ça va être l'Algérie, le Yémen ou la Jordanie qui sont en ce moment là, les points chauds de la révolte à part l'Égypte.
Mais l'Algérie, ça avait commencé en même temps que la Tunisie.
Ouais, mais ça va peut-être repartir. Il y a eu de la répression sauvage, là. Mais il dit qu'il faut garder à l'esprit que la révolution égyptienne va avoir un très grand impact partout, au-delà des pires attentes de tous les dictateurs et de leurs partisans. Et donc, et bien justement, c'est quoi l'implication réelle d'une révolution en Égypte? Vu d'ici, on peut se demander qu'est-ce que ça implique. Mais c'est quand même le deuxième plus important bénéficiaire de l'aide militaire américaine dans le monde. Alors, c'est à quoi il a répondu que, bon, l'Égypte est le plus grand pays du Moyen-Orient et un rôle stratégique très important. C'est un des principaux piliers de la politique américaine au Moyen-Orient. Même si l'ancien régime pouvait survivre pendant un certain temps, ou même si le nouveau régime qui va être installé était pro-américain, la pression des masses va être toujours là à partir de maintenant. Et en un mot, les États-Unis, qui sont le principal soutien du régime de Moubarak, vont souffrir beaucoup en raison de la révolte des masses égyptiennes. Puis justement, parlant de révolte des masses, on parle beaucoup du rôle... En fait, on s'interroge beaucoup sur le rôle des islamistes, puis le rôle des frères musulmans, entre autres, en Égypte. C'est quoi leur rôle dans les manifestations? Et aussi, c'est quoi le rôle de la vieille garde de gauche, les vieux partis communistes et tout? Puis, c'est à quoi il a répondu qu'une chose qui est très importante au sujet des manifestations et des révoltes, c'est qu'elles sont tout à fait spontanées, initiées par les masses. C'est vrai qu'il y a différents partis politiques... s'y sont joints plus tard, mais toute la lutte a été dans une très large mesure une manifestation de l'action autonome des masses. C'est vrai aussi pour les groupes politiques islamistes. Il y en a peut-être de ces groupes-là qui pensent maintenant que s'il y a des élections, ça va pouvoir les amener au pouvoir, mais avec des masses révoltées dans les rues, c'est difficile, et le camarade pense que les gens vont refuser activement de se soumettre à nouveau à tout nouveau pouvoir répressif. Mais même si ça pouvait se produire, les gens vont pas accepter cette fois-ci de redevenir des simples sujets, surtout si avec les souvenirs frais et euphoriques du sommet de liberté qu'ils ont gagné par leur propre lutte. Puis il y a aucun pouvoir qui va pouvoir aisément les forcer à se soumettre à nouveau à n'importe quel type de régime répressif. Et l'autre chose aussi qu'il dit qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'avec les révolutions, les gens vont être plus ouverts aux idées libertaires et anarchistes. Et la liberté, en fait, en tant que telle comme idée, va devenir l'idée hégémonique du moment, pas l'autorité. Ce sera pas l'autorité puis la soumission, ça va être la liberté, parce que c'est par la liberté qu'ils vont avoir gagné la liberté, en fait, bref. Et donc, il y a des groupes staliniens là, qui représentent juste le visage hideux du socialisme autoritaire. On peut penser à l'ancien Parti communiste tunisien qui a participé aux côtés du parti au pouvoir de Ben Ali dans le gouvernement qui a été formé après le renversement de Ben Ali lui-même. Donc, c'est pas très glorieux. Il y a un autre groupe autoritaire, là, le Parti communiste des ouvriers tunisiens, qui a participé activement aux manifestations. Mais qui n'a pu qu'exposer ses contradictions au moment de la fuite de Ben Ali. Il a appelé à constituer des conseils et des comités locaux pour défendre la révolte, sauf que ça a vraiment pas été long, qu'il s'est rétracté très rapidement pour appeler plutôt à former une nouvelle assemblée et un nouveau gouvernement. Donc, en Égypte, c'est presque la même chose. Il y a des groupes réformistes de gauche, là, comme le Parti progressiste unioniste, et d'autres groupes de révolutionnaires gauchistes autoritaires. On dit qu'il n'est pas capable de dire exactement c'est quoi le rôle des anarchistes et des autres libertaires. Il mentionne qu'il y a quand même un courant communiste de conseil qui grandit à côté du courant anarchiste dans le monde arabe. Il peut pas en parler à cause du manque de communication avec les camarades. On comprend qu'actuellement, c'est pas simple. Mais il veut souligner ce qu'il a déjà dit, là, les révolutions ont été faites principalement par les gens eux-mêmes. En Tunisie, il y a peut-être des syndicats locaux forts qui ont joué un grand rôle dans les derniers stades de la révolte, là, mais ça reste que c'est l'activité autonome des masses. Et il voulait parler plus en détail, ça c'est quelque chose qu'on entend moins parler, un petit peu quand même, mais moins, des comités locaux qui sont formés par les masses, qui sont une des manifestations les plus intéressantes de l'action révolutionnaire. Donc, pour faire face à des pillages qui sont la plupart du temps commencés par l'ancienne police secrète pour fomenter des troubles...
Ceux qui veulent protéger leurs privilèges.
Ouais, c'est ça. Les gens, eux, forment des comités, des institutions qui sont réellement démocratiques, des comités finalement de surveillance, et qui forment une véritable concurrence à la puissance de l'élite dirigeante et de ses institutions autoritaires. Et en Égypte, il y a maintenant deux gouvernements. Il y a les comités locaux, puis il y a le gouvernement de Moubarak qui, lui, est caché derrière les chars et les fusils des soldats. Et ça se produit dans une région qui est habituée à des dictatures, à l'autoritarisme, et c'est ça qui est bien avec les révolutions, là. Ça transforme tellement rapidement le monde que ce genre de choses-là est possible. Et évidemment, ça veut pas dire que la lutte est terminée, qu'elle a été gagnée. Au contraire, ça veut dire que le vrai combat commence. Et puis bon, évidemment, on sait quand est-ce qu'on s'embarque là-dedans, on sait jamais quand est-ce qu'on en sort.
C'est ça, ils viennent à peine d'enfoncer la porte.
Ouais, c'est ça. Mais au moins, eux autres, ils ont cogné dessus, tu sais. C'est déjà un début. Nous, on la voit même plus.
Ah, nous, est caché par Internet.
Ouais, c'est ça. Puis pour résumer là, sur son opinion sur les événements actuels et ce qu'il symbolise, il dit que c'est le début d'une ère nouvelle, que les masses se soulèvent, que leur liberté est en jeu, que les tyrannies sont ébranlées. C'est à coup sûr le début d'un nouveau monde. Puis, ben, il faut le dire, hein. N'ayons pas peur des mots. C'est phénoménal ce qui se passe en ce moment. C'est le retour de la révolution, toi.
Hey.
Non, mais c'est vrai!
Mais oui, je sais.
c'est carrément le retour de la révolution. Ils n'osent pas trop en parler, là. Ils n'osent pas trop le dire, là. Mais c'est la perspective révolutionnaire qui vient.
Il n'y a pas un média de masse qui va parler de révolution. Il parle de manifestation de masse, de changement de régime.
On commence à parler de révolution du jasmin, là.
Ah, il faut leur mettre une couleur ou une fleur à cette heure.
Oui, c'est ça.
C'est pas juste une révolution. Il faut que ça sente bon.
Mais c'est des révolutions populaires.
Mais oui.
C'est leur 1848, c'est leur 1789.
Et voilà.
C'est phénoménal. Je voulais parler, bon, avec le monde arabe qui est en feu. Ben, il y a des endroits où ça couvre depuis très, 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 très longtemps et où ça brûle par moment. Puis un de ces endroits-là, c'est la Palestine. On en a parlé régulièrement de la Palestine. On s'est mobilisé régulièrement pour la Palestine à Québec. Et là, ça va pas bien à Gaza. Et il y a une situation qui est complètement hallucinante à Gaza. Il y a une crise humanitaire de fond qui est provoquée par un blocus d'Israël qui veut, en fait, comme... qui fait une punition collective dans les faits là, contre pour essayer de contrer le terrorisme et saper plus, la base d'appui du Hamas et tout.
En plus, le temps est bon pour Israël de faire ça parce que la tension médiatique internationale est ailleurs.
On est rendu à 80% des familles de Gaza qui ont besoin de l'aide alimentaire internationale pour survivre. Et des services hospitaliers qui sont pratiquement inexistants. Et puis là, on est rendu avec 95% de la capacité industrielle qui est bloquée et plus de 50% de chômage. Et
donc, ils peuvent même pas se révolter face à leur propre gouvernement, tu sais.
Ben non, mais leur gouvernement, là, c'est le Hamas. Puis Israël qui les et l'Égypte aussi. L'Égypte participe au blocus.
Mais oui, c'est important.
et donc c'est ça. Puis là, écoute, il y a des gens qui se mobilisent au Canada depuis longtemps sur la question de la Palestine et on est actuellement aux prises avec un gouvernement
israélien
sur cette question-là, un gouvernement mais vraiment pro-israélien. Stephen Harper a déclaré qu'il soutiendrait Israël coûte que coûte.
Coûte que coûte.
Puis là, il a coupé les vivres à toutes les ONG canadiennes qui avaient des positions pro-palestiniennes. Et donc,
c'est les terroristes.
Ouais, il les a tous... Ouais, ben oui, alternatives.
Des terroristes.
En tout cas. Fait que là, ça a eu comme effet, un peu paradoxalement, bon, j'imagine que les gens qui s'impliquent là-dedans seraient peut-être pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est comme si ça avait libéré plein de militants. Et là, il y a des gens qui ont fait comme bon, on n'a plus rien à perdre, on peut se lancer beaucoup plus franchement dans le soutien. Et il y a des gens dont un cofondateur d'Alternative qui est Stéphane Corriveau là, qu'on a vu dans les médias qui ont décidé de se joindre à une initiative qui s'appelle la Flottille pour la Liberté 2. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, il y a des internationaux qui avaient affrété une flottille de la liberté qui voulaient en fait défier le blocus.
Et qui sont fait sauvagement agresser par un hélicoptère noir et des hommes cagoulés.
Ouais, ben en fait, sur 400 internationalistes, il y en a 7 qui ont été assassinés. Et puis là, ils refont la même chose. Leur idée, en fait, c'est de dire, ils disent pour eux, le blocus est illégal, l'endroit international, ça n'a pas de bon sens. Puis ils veulent comme forcer le blocus pour amener des trucs humanitaires finalement à Gaza, aller là-bas.
Essayer de nourrir un peu les gens.
Ben, c'est
pas.
Ça. Fait qu'il y a un bateau canadien qui est en train d'être affrété pour ça. T'as entre 20 et 40 militants canadiens et québécois, en fait au moins un tiers de Québécois, qui vont s'embarquer pour aller forcer le blocus. Et j'en ai parlé avec des gens de ce groupe-là qui disaient que en fait leur objectif est double. Ils ont un objectif international et un objectif national avec cette action-là. L'objectif international, évidemment, c'est de se solidariser avec le peuple palestinien, avec les Gazaouis, puis forcer le blocus et éventuellement, finalement, amener des choses là-bas puis repartir avec des choses de là-bas comme pour symboliquement repartir le commerce. Et donc ça c'est intéressant. Et ils disent qu'ils vont être non-violents, radicaux et intégraux, mais que comme ils considèrent que c'est illégal, ils vont s'arrêter juste quand ils vont être stoppés physiquement.
Ben oui.
Ils vont pas, tu sais, ils veulent vraiment forcer le blocus là. Puis si on veut les arrêter, il va falloir qu'on les arrête militairement.
Physiquement, physiquement, c'est ça. Il arrive un autre hélicoptère noir, puis
c'est ça. Mais c'est quand même pas rien. Puis eux, ils disent, donc ça, c'est l'objectif international. L'objectif national, c'est qu'ils veulent...
dénoncer le
gouvernement. Ils veulent mettre Harper et le gouvernement conservateur face à ces contradictions. Ils disent, t'as dit que t'allais supporter Israël coûte que coûte. Ils veulent voir comment qu'il va réagir le jour où est-ce qu'il va avoir un bateau immatriculé au Canada, avec un drapeau canadien, des citoyens canadiens dessus, qui va se faire arrêter par l'armée israélienne.
C'est-tu qu'est-ce que je me demande, moi? C'est si Harper va pas être zélé et l'empêcher de décoller ce bateau-là.
Ouais, mais je sais pas, il partira peut-être pas du Canada non plus.
Ah.
C'est cher partir du Canada pour se rendre jusqu'en Israël.
Ouais, ouais, mais en tout cas.
On sait pas, il va peut-être partir de la Méditerranée. Mais en tout cas, bref, ils se lancent dans cette affaire-là. Ils ont déjà l'appui d'une centaine d'organisations de tous les horizons. Ils ont fait le tour des ONG. Il n'y en a pas une qui a voulu les appuyer. Parce qu'il y avait peur de ce que ça impliquerait, les appuyer. Et toutes les ONG qui avaient déjà une position pro-palestinienne...
Ils n'ont plus d'argent. Ils peuvent pas aider.
Ils peuvent pas aider. Ils disent, on peut bien vous appuyer, mais on n'a plus d'argent à vous donner. Fait que ils se sont tournés vers vers les mouvements sociaux, vers les mouvements syndicaux, vers les communautés religieuses et tout. Ils avaient été chercher, ils avaient réussi à aller chercher des appuis d'élus politiques au fédéral, qui, dans les heures qui ont suivi le fait que ce soit rendu public, ont demandé à être retirés des listes parce que leurs partis ont eu peur en disant, on n'a pas besoin d'un Amir Kadir dans nos rangs. Donc, quelqu'un qui va se faire... varlopé finalement par la droite et tout. Donc il y a des gens qui ont toujours été pro-palestiniens, qui sont élus au Parlement fédéral, puis le climat est tellement pourri au Canada actuellement que ces gens-là peuvent même pas dire j'appuie l'initiative. Hey, parce que là, c'est quand même débile. Ah,
ils
là,
peuvent pas, ils peuvent pas. C'est bien qu'ils veulent pas. Là,
ouais, non, c'est leur parti qui veut pas.
Mais c'est ça, là, ils vont bien se calmer. Là. C'est pas comme s'ils mettaient leur vie en péril. Là.
Non, c'est pas eux qui les mettent en péril.
Ben, c'est ça.
Mais tu sais, c'est hot, là. C'est rendu que c'est trop grave, là. Puis on peut même pas appuyer une initiative ouvertement non violente et pacifiste. C'est vraiment bizarre. Enfin, bon, tout ça pour vous dire que ils ont calculé là qu'au strict minimum, leur opération va leur coûter 300 000 piastres. Ils ont déjà presque ramassé 200 000, ou en tout cas des promesses pour 200 000. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que dans le lot, il y avait des gens qui avaient un petit peu de sous, puis que s'il fallait emprunter pour partir, il allait emprunter pour partir. Ils veulent vraiment y aller, là. Ils partent en mars. Et donc, si vous voulez plus d'informations pour faire un don, pour faire un appui politique, n'importe quoi, vous pouvez aller sur bateaugaza.qc.ca. Tu m'interpelles là-dessus?
Non, non.
OK. Fait que c'est ça. C'est ce qui terminerait, en fait, pas mal... je l'avais dit, hein, j'étais capable, j'ai parlé pendant 20
ans. Et voilà. Et y a-t-il des plugs? À part devenir membre de Sequoia.
Non, moi, je pense que j'en ai pas. Mais sérieusement, allez voir sur bateaugaza.qc.ca. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et phénoménal comme...
C'est pas mal courageux.
Oui, c'est très courageux, tu sais, c'est comme... en tout cas, ils vont devant de l'armée israélienne, c'est pas rien. Donc, c'était quoi de fait?
À peu près l'armée... Sérieusement...
Ben, l'armée française est pas pire aussi.
Ouais, mais l'armée israélienne...
C'était fait rentrer dedans solide.
Ben, c'était les Français qui avaient coulé le Greenpeace, là, mais je parle des dernières années, une armée qui attaque des ressortissants étrangers. Tu sais, parce que c'est un geste diplomatique... Très répréhensible, c'est grave. C'est pas comme les armées qui attaquent leur population, entre guillemets. Ça reste un conflit à l'interne, puis personne veut s'en mêler, mais attaquer un ressortissant étranger puis s'en sortir brudé.
En tout cas, mettons que moi, j'ai des rushs d'adrénaline quand je fais des occupations. J'ose pas imaginer le rush que j'aurais embarqué sur le bateau.
Je pense que je dormirais pas tout le voyage.
Donc, c'était votre fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous étiez en compagnie de Nicolas.
Jeannie.
Et Farouko.
Si vous vous ennuyez de nous, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre blog, votre fait avec un X et un S.blogspot.com.
Bonne semaine.